Ce chant qu'on vient de chanter, il est fantastique. Quand on prend le temps de le décortiquer, on peut avoir l'habitude hein, de l'entendre. Il a un air peut-être un peu, on va dire, allez, vieillot. Voilà, c'est pas, ça bouge pas trop, quoi. Hein, mais le fond, franchement, il est fantastique. Et je pense que ça va très bien avec ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, je vous ai parlé du précurseur. Hein, on est dans Jean. Et j'ai trouvé le titre que nous pouvons donner à l'enseignement d'aujourd'hui, l'irrésistible. Alors ça fait un peu cinéma. Après le précurseur, voici l'irrésistible. Ça fait bande annonce, tu vois. Vous avez été interpellé par le précurseur, qui était Jean-Baptiste. Ben, vous serez attiré et gracié par l'irrésistible. On va lire le passage en question, et puis juste après je prierai. Jean chapitre 1 verset 35 à 51. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, Jean le Baptiste. Hein. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où habites-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent donc et virent où il habitait et ils restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Mais viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël, lui répondit Jésus. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Quel passage, hein ? Quel passage. Jean-Baptiste, il s'attendait à voir ses disciples suivre Jésus. Il s'attendait à ce que ses disciples finissent par suivre Jésus. C'était le but pour lequel il était là, c'est le précurseur. Donc il est le poteau indicateur qui montre, voilà, moi je montre celui-là, c'est lui que vous devez suivre. Les deux disciples mentionnés dans le texte aujourd'hui n'ont pas abandonné Jean-Baptiste honteusement pour se rattacher à un maître spirituel plus prestigieux. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont fait simplement, ils ont été simplement en accord avec ce que Jean-Baptiste enseignait. Alors, j'ai trouvé intéressant les versets 38-39 derrière la question posée par Jésus. Que désirez-vous ? Ou que cherchez-vous ? C'est intéressant comme question. Le verbe suivre est sous-entendu. Et cette question posée par Jésus s'interprète super bien dans le sens du texte, au niveau littéral. Jésus est en train de demander à ses disciples qu'est-ce qu'ils ont à l'esprit ? Ce qu'ils ont dans la tête ? En fait, par cette question, l'auteur souhaite que ses lecteurs, nous, eh bien, finalement, nous réfléchissions à la question de manière plus profonde. Le but du livre, Des choses ont été écrites. Beaucoup de choses auraient pu être écrites encore. Mais Jean a écrit certaines choses parce qu'il sait très bien que nous allons lire, n'est-ce pas ? Alors, la question qui se pose à nous, comme à chaque disciple potentiel, est la suivante. Que désirez-vous ? Que cherchez-vous ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Dit Jésus. Plus encore, qu'est-ce que vous attendez de la vie ? Parce que c'est bien ça qu'il y a derrière la question posée par Jésus. Cette question peut paraître dérangeante, presque indiscrète. À un certain moment de notre découverte de Jésus, cette question peut paraître très intime. Jésus commence d'emblée par demander à celles et ceux qui veulent le suivre d'exprimer ce qu'ils attendent de lui. Imagine que ce que Jésus te pose cette question ce matin. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu attends de la vie avec moi ? J'attends que tu me bénisses, Seigneur. Que je puisse finir de payer mon crédit de la maison. J'attends mon canapé que j'ai commandé sur Vente Unique. Il arrive 6 mois après. Mais bon. J'attends la reconnaissance. J'attends la réconciliation avec mon frère, avec ma sœur, avec mon fils, avec ma fille, mon ami, ma tante. Il y en a qui attendent qu'il y ait une église pour 10 000 habitants. Trouver du boulot, combler le découvert de mon compte en banque, rencontrer un mari, une épouse. On attend quoi de la vie ? Attendre d'être aimé ? Attendre de retrouver la santé ? La guérison d'une personne que nous aimons ? On peut se réjouir cette semaine. On a prié, c'est vrai. Et je me réjouis que Samuel aille mieux. Et on peut se réjouir tous ensemble. Peut-être que parfois le Seigneur nous amène dans des moments de crise pour que nous nous retrouvions là où il faut que nous nous trouvions, au pied de la croix. Et c'est dommage que nous attendions souvent les moments de crise pour ça. Yves Perrier, un de mes deux pères spirituels, mon mentor, comme on dirait aujourd'hui, m'a dit qu'il a lu un verset de la Bible qu'il avait ressenti au fond de lui comme s'il lui était adressé. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » C'est saisissant, à laquelle personne ne peut se soustraire. Chaque habitant de la terre, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il y pense ou qu'il n'y pense pas, rencontrera un jour le Dieu Tout-Puissant. Un jour ou l'autre. Alors mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu attends de Jésus ? Qu'est-ce que tu attends de la vie à ses côtés ? Et les deux disciples introduisent leur réponse par « Rabbi ».« Rabbi », »,« Maître ». C'est, si je peux m'exprimer ainsi, le maître mot du passage que nous étudions aujourd'hui. « Maître ». « Rabbi ». Jésus est un maître, un enseignant, un prof, un professeur. Les évangiles, bien sûr, précisent qu'il n'était pas comme les scribes et les pharisiens. Ce n'est pas un religieux, dans ce sens-là. Je vous cite Scott Peck, un psychiatre américain connu. Il a écrit qu'il aborda pour la première fois les évangiles avec un regard sceptique. En fait, il s'attendait à découvrir des comptes rendus, avec un peu de détails qui embelliraient la biographie de Jésus. Et en lisant les évangiles, cette idée, elle est complètement sortie de sa tête. Écoutez bien ce qu'il a écrit. J'ai été stupéfait de la réalité humaine du personnage principal des évangiles. J'ai cru voir en lui un homme souvent triste, déprimé, angoissé, inquiet, avec toujours cette hantise de ne pas être compris. Il cite les paroles de Jésus pour ceux qui le suivent. Combien de fois ai-je dû vous le dire ? Combien de fois dois-je répéter ? Que dois-je faire pour que vous compreniez ? Ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Et enfin, c'est quelqu'un qui est terriblement seul, finalement. Mais qui ressent aussi parfois un immense besoin de solitude. Le meilleur romancier du monde n'aurait pas pu inventer un personnage aussi psychologiquement riche et complexe. Non, Jésus n'est pas le ringard représenté en train de caresser la tête des petits-enfants, sourire radieux, parcourant la Galilée avec une sérénité à toute épreuve, d'un calme imperturbable, l'âme toujours en paix. Le rabbi, le maître des évangiles, était loin d'avoir l'esprit tranquille. Très loin d'avoir l'esprit tranquille. Et si nous voulons être ses disciples, pas question de l'avoir non plus. Fin de citation. Waouh. Et finalement, c'est à se demander si nous ne sommes pas parfois en train de perpétuer une image de Jésus qui répond à nos attentes pieuses et moins pieuses, mais qui ne correspond en rien, au personnage des évangiles. La réponse à la question « Que désirez-vous ?» elle ne se trouve pas dans le fait que Jean, André ou le frère de Simon, Pierre, Céphas, se sont mis à suivre Jésus. Elle n'est pas non plus dans le fait que le lendemain, se rendant en Galilée, Jésus rencontre Philippe et lui dit tout simplement « Suis-moi ». La réponse à cette question, elle se trouve juste après, c'est-à-dire à partir du verset 45 jusqu'à 51. On va lire. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Mais d'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, mais tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Mais parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Et qu'est-ce que fait Nathanaël? La première des choses qu'il fait, il discute, il doute. De quoi tu me parles? De qui tu me parles là? C'est quoi ça? Le Messie de Nazareth? Nazareth? N'importe quoi. N'importe quoi. Peut-on trouver quelque chose de bon à Nazareth? Ville qui avait quand même mauvaise réputation, je l'ai dit déjà, je crois, il y a quelques semaines. Je ne crois pas que le Messie puisse venir de Nazareth, tu te trompes. Car d'après les prophètes, il devrait venir de Bethléem. Désolé, mais moi je n'y crois pas, ton Messie, Philippe. Alors peut-être que ce matin, tu es un peu comme Nathanaël, toi. Tu te dis, oui, mais si tu savais, j'en ai déjà vu des prophètes, des pasteurs. Des prêtres, des hommes et des femmes de Dieu. J'en ai tellement vu. Qu'est-ce que tu veux qu'ils changent dans ma vie? Qu'est-ce que tu crois qu'ils peuvent faire de mes problèmes? Et aujourd'hui, c'est la même invitation pour toi et pour moi. Viens et vois. Viens, on va regarder ensemble. Et Philippe, allez, on y va, on va voir. Viens, viens et vois. On va ensemble regarder qui est Jésus et ce qu'il peut faire dans ta vie, et ce qu'il veut faire dans ta vie. Par contre, tu dois devoir changer ta manière de penser. C'est-à-dire, arrête d'envisager les choses d'après ton point de vue, d'après l'endroit où tu es. Mais commence à regarder les choses par rapport au point de vue de Dieu. Son point de vue à lui, il est le rabbi. Il est le maître. Nathanaël, il est encore loin de l'appeler maître, hein, Jésus. Et on va voir. C'est ça son problème. Et c'est ça mon problème. Je regarde toujours les choses par rapport à là où je suis. Je regarde les choses par rapport à ma situation, les circonstances dans lesquelles je me trouve, par rapport à mes souffrances, par rapport à mes besoins, par rapport à mes épreuves, par rapport à mes aspirations. Et je regarde tout ça par rapport à là où je me trouve. Alors que je devrais aller rencontrer le Christ et le voir lui. Et je me parle. Et à tous ceux qui s'approchent de lui sincèrement, en lui attribuant le statut de maître, Jésus se révèle. Il se montre, il se laisse voir. Verset 47. Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit « Voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de ruse. Voilà un Israélite, un vrai de vrai. Un homme sincèrement à recherche. Un homme intègre, dans lequel il n'y a pas de ruse. » Ça veut dire quoi ça? Est-ce que d'après vous, ça veut dire que finalement, Nathanaël n'avait pas besoin de la croix? Nathanaël était un petit saint? Ça voulait dire qu'il avait 20 sur 20 partout? Il était nickel chrome sur toute la ligne? Pas du tout. Nathanaël était loin d'être excellent dans tous les domaines de sa vie. Et ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est simplement en train de dire que Nathanaël est un homme sincère, comme dit le psaume 32. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi, ou dans lequel, dans son esprit, il n'y a pas de fraude. Exempt de mauvaise foi. Malheureusement, nous sommes trop souvent de mauvaise foi. C'était un homme sincère, Nathanaël. En fait, Nathanaël était capable de dire « Je ne suis pas l'Israélite que je devrais être. » Et Jésus a vu ça dans son cœur. Et Jésus peut nous dire à nous ce matin « Je ne suis pas l'évangélique que je devrais être. » Et ce n'est pas les autres qui ne sont pas les évangéliques qui ne devraient pas, qui devraient être. C'est moi. Mea culpa. Moi. Je ne suis pas l'évangélique que je devrais être. Je ne suis pas le chrétien que je devrais être. Je ne le suis pas. Je rêve pas. C'est la réalité. Il faut arrêter. Et c'est comme ça qu'on est sincère avec Dieu. Et finalement, Jésus peut nous dire à ce matin, voilà un chrétien évangélique sincère, un chrétien évangélique qui n'est pas de mauvaise foi, qui reconnaît ses limites, qui reconnaît ses difficultés, qui est parfaitement conscient de ce qui cloche dans sa vie. En premier, avant de voir ce qui cloche dans la vie des autres. Quelle opinion nous avons de nous-mêmes? Et Nathanaël est vraiment surpris. Il dit à Jésus, mais d'où est-ce que tu me connais? Qui t'a parlé de moi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Un, tu sais que je m'appelle Nathanaël. Parce que jusque-là, le texte ne dit pas que quelqu'un est venu dire à Jésus, il s'appelle Nathanaël. Non. Déjà, il sait, Jésus sait qu'il s'appelle Nathanaël. Et deuxième chose, il dit à Jésus, ou alors plutôt il pense, quand Jésus lui dit, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de ruse, il se dit, mais ce gars-là, il sait que je ne suis pas du style à me défiler. Parce que Nathanaël n'était pas du style à se défiler. Il était du style à regarder ses problèmes en face. Et Jésus répond au verset 28, « Avant même que Philippe t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Ah, un personnage de plus, un figuier. Et instantanément, qu'est-ce qui se passe? Nathanaël est transpercé, quelque part, d'une révélation de Dieu. Il va reconnaître celui qui est face à lui. D'ailleurs, regardez la réponse, verset 49. Tout a changé. Maître. Maître. Rabbi. S'écria Nathanaël. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et là, quand tu commences à appeler Jésus maître, c'est que beaucoup de choses sont en train de changer dans ta vie, dans ta façon de voir la vie, dans ta manière de considérer les choses que tu vis. Que cherches-tu? Réponse: maître. Que désires-tu? Réponse: maître. Et Nathanaël a abdiqué là. Maître. Pourquoi Nathanaël est-il saisi par la réalité de la présence de Christ? Parce que Jésus l'a vu sous son figuier? Non. C'est pas pour ça. Jésus a vu dans le cœur de Nathanaël les vraies questions qu'il avait à propos de sa foi, à propos de la pratique de sa foi. Jésus a vu les questions que Nathanaël était le seul à connaître. Et le texte laisse penser que finalement, tout seul sous son figuier, Nathanaël était en train de se dire, finalement, je ne suis pas comme Dieu voudrait que je sois. je ne suis pas si exceptionnel que ça. Je ne suis pas le juif que Dieu attend que je sois. Je ne suis peut-être pas tant à la hauteur que ça. Un théologien du nom de Roy Hayson, dans un de ses messages, avait donné cette exhortation. Il a dit, « J'espère que vous avez tous un figuier, un endroit où vous allez vous cacher et où vous pouvez faire le point sur votre vie personnelle en disant, « C'est vrai, j'ai du mal dans ma marche avec Christ. C'est vrai, j'ai du mal à aimer les autres. C'est vrai, je suis dur avec mon épouse ou avec mon mari, ma fille, mon fils, mon frère, ma sœur, avec les responsables de mon église. Je suis dur. » Oui, Seigneur. Oui, c'est vrai, j'ai un mauvais caractère. Oui, c'est vrai, je suis souvent injuste. Oui, c'est vrai, la situation que je vis avec telle ou telle personne n'est pas à la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu nous voit sous nos figuiers. Il me voit, il te voit sous ton figuier. Et Jésus a vu Nathanaël sous son figuier et il nous voit chaque fois que nous sommes sincères et que nous nous posons des questions sur notre vie, sur les difficultés que nous traversons. Dieu est tout proche de nous, il écoute. Et le problème, c'est toujours le même. Nous attendons des réponses en fonction de nous. Et pas en fonction de lui. C'est mon problème. J'ai besoin de recadrer ma vie à chaque fois. Et je ne parle pas d'introspection, hein. Je ne suis pas en train de dire d'essayer de dénicher les péchés qu'il y a dans nos vies sur lesquels j'assure pas et patati. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un regard honnête sur notre vie personnelle. Honnête. Je ne parle même pas de recherche en Dieu, de solutions, de réponses, de chemin à prendre. Je ne parle pas de ça. Mais de mise au point. Mise au point. C'est-à-dire chercher à savoir où nous en sommes avec lui. C'est tout. Pas faire la comptabilité. Non, où j'en suis avec Jésus. Où j'en suis avec mon maître. Et Dieu est là, il est attentif, il cherche des figuiers. Il se dit, bah là, il y en a un ou une qui est en train de prendre un moment sous son figuier. Je la vois, c'est super. C'est génial. Il voudrait ou elle voudrait que ça change. Il voudrait trouver de nouvelles ressources pour sa vie spirituelle. Je la vois, je le vois sous son figuier. C'est impressionnant comme Nathanaël change d'un seul coup. Il tombe à genoux. Maître, tu es le Fils de Dieu. Ben oui, il y avait deux personnes au monde qui étaient capables de voir qui il était sous le figuier et à quoi il était en train de penser. C'était lui-même et Dieu. Il ne pouvait pas dire autre chose. Tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu. Jésus connaît mes faiblesses, mes limites, mes obstacles, les combats que j'ai avec moi-même. Parce que ce sont là les plus difficiles. C'est les combats que tu as avec toi-même. Ce n'est pas les combats que tu as avec les autres. Ce n'est pas les combats qu'on a avec les gens autour de nous. C'est les combats que nous avons avec nous-mêmes. Parfois, on se trompe de combat. Et si on ne s'en sort pas avec les autres, comment on va s'en sortir avec nous-mêmes? Vous voyez, je pars à l'envers. On a souvent tendance à dire, si je ne m'en sors pas avec moi-même, comment je... Non. Si je ne m'en sors pas avec les autres, comment je vais arriver à bout de moi-même? Parce que le gros problème dans nos vies, c'est nous-mêmes, ce n'est pas les autres. C'est nous. Et verset 50, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ?» C'est déjà pas mal. Mais tu verras de plus grandes choses. Puis il ajoute au verset 51 cette phrase mystérieuse, « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. » C'est bizarre, hein? C'est quand même bizarre comme phrase, non? Quand vous lisez ça, vous dites, mais d'où ça sort ce truc-là? D'où Jésus, il sort un truc pareil? C'est quoi? Et en fait, pour nous, c'est très difficile à comprendre. Mais pour un Israélite à l'époque, c'est très simple. Parce que Nathanaël connaissait parfaitement l'histoire d'Israël. Et particulièrement l'histoire de Jacob, qu'il était, entre parenthèses, pas comme Nathanaël. C'était quelqu'un de rusé. Et lorsque Jésus dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme », Nathanaël comprend tout de suite que Jésus est en train de parler de ce fameux rêve de Jacob. Genèse 28, Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller. Il est tombé bas, Jacob, hein, et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant, écoute, retenez bien les mots, reposant par terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu te reposes, je te la donnerai, à toi, à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Dieu parle. Dieu parle à Jacob, là. C'est Dieu qui parle. C'est un drôle de rêve, quand même. Dieu est tellement proche, mais il est juste en haut, là. Tu vois ? Tu as un escalier, il est là. Et il te parle. Mais il te dit là, tu me vois ? C'est fantastique, quand même. Dieu en haut d'escalier. On aimerait bien que Dieu soit juste là, en haut de l'escalier. Et Jacob, certainement, s'est réveillé en disant, mais si seulement Dieu pouvait être aussi proche que ça, dans la réalité. Si seulement il pouvait être là, en haut de l'escalier. Que je le vois, qu'on parle, on discute. Et tout, comme ça s'est passé dans mon rêve. Et peut-être ce matin, tu es en train de te dire, si Dieu pouvait être aussi proche de moi, dans ma souffrance aujourd'hui, dans ce que je vis actuellement, dans ma vie d'église, dans ma vie de couple. C'est un rêve, ça. J'aimerais qu'il soit là, juste là, tout près. À côté. Et beaucoup de gens, au travers de l'histoire, comme nous, se sont demandé si Dieu allait être un jour aussi proche d'eux. Parce que Dieu est Dieu, finalement, il est au ciel et nous, on est sur terre. On est des hommes, des femmes, on est humain, on doit se dépatouiller de nos problèmes, on doit encaisser la vie et les souffrances qu'on a vécues ou qu'on vit, vivre avec nos angoisses, nos soucis. Et même si on lit la Bible, la distance des fois entre Dieu nous semble tellement immense et on a l'impression que Dieu proche, ça serait presque un rêve. J'ai envie de te dire ce matin, et si ce n'était pas un rêve, si c'était la réalité avec Jésus. Vous savez, Jacob fait ce rêve au moment où il est en fuite. Il fuit son frère Ésaü, mais Jacob fuit aussi Dieu à cause de son péché, parce qu'il a trompé son frère. Il s'est rendu coupable, il le sait. Il le sait. Et nous, parfois, nous sommes aussi en fuite. On est en fuite. Il m'arrive de fuir. Je peux être ici, assis, là, et être en fuite. En fuite par rapport à une situation. En fuite par rapport à certaines difficultés que je traverse. Et finalement, dans cette histoire, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu se révèle à un homme en fuite. Un homme qui n'est pas clair. Pas clair du tout, Jacob. Pétard. D'ailleurs, je crois que son nom, ça veut dire arnaqueur. Il n'est pas né à Marseille, pourtant. Mais Dieu s'est révélé à un homme comme ça. Et si Dieu se révèle à un homme comme ça, c'est plein d'espoir pour moi. Parce qu'il peut se révéler à n'importe lequel d'entre nous. Et finalement, Jacob a rencontré Dieu tel qu'il était. Donc, nous rencontrons Dieu tel que nous sommes. Et absolument personne n'est exclu. Dieu ne peut pas dire, ouais, mais tu vois, toi, ça ne va pas dans ta vie, je ne peux pas te rencontrer. Il faut d'abord que ça change. Et après seulement, je te rencontrerai. Hein. Il y a certaines personnes ici que je rencontrerai, et d'autres, je ne les rencontrerai pas. Revenez la semaine prochaine quand vous aurez réglé vos problèmes. Quand le problème du péché dans votre vie sera réglé, il y a certains péchés, là, je ne peux pas vous rencontrer aujourd'hui. Non, non, ce n'est pas possible. D'autres, oui, mais pas vous. Ah, Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce Dieu-là de la Bible que je crois. Rien n'empêche la grâce de Dieu de tous nous rencontrer, quel que soit notre état, quelles que soient nos circonstances. Et je suis content que Dieu ait choisi de se révéler à un trompeur, à un rusé comme Jacob. Parce que, quelque part, je me sens plus proche de lui que de n'importe qui. Je me sens plus proche d'un hypocrite comme Jacob que de quelqu'un qui est super, génial, hein ? Tu te sens plus près de qui, toi ? Quelqu'un qui est génial, qui a tout compris, qui sait tout ? Nickel chrome, niveau théologique, au niveau de ta vie chrétienne, tout baigne ? Ah ben bravo ! Et imaginez Jacob, il médite sur ses erreurs, il médite sur la situation dans laquelle il s'est fourré, parce qu'il s'y est mis tout seul. Hein. Il est là dans un lieu complètement inhospitalier, il prend un caillou pour poser sa tête, t'imagines ? Il se réveille, l'Éternel était à côté de moi et je ne le savais pas, je ne m'en rendais pas compte. Et parfois on est là en train de mourir de soif à côté d'une source d'eau. On résiste à Dieu alors qu'on en a besoin. Vous verrez le ciel ouvert. Et Jésus est en train de dire à Nathanaël, mon gars, tu vois l'échelle qui va jusqu'à Dieu. Tu vois cette échelle-là de Jacob. C'est moi. Waouh. Roy Hayson avait fait encore sensation lors d'un de ses messages qu'il avait donné en 76. Il avait déclaré, l'homme a un amour congénital pour les échelles, en particulier les chrétiens. Ils aiment les échelles au sommet duquel il y a une quelconque espoir de bénédiction. Et c'est vrai, nous aimons grimper dans notre vie. On grimpe les échelles. On aime bien grimper. Pour recevoir la bénédiction. Hein. Il faut qu'on s'améliore dans la vie chrétienne, hein, qu'on fasse des progrès. Il y a même ce vieux cantique négro-spirituel qui dit, nous sommes en train de grimper à l'échelle de Jacob. On va être bénis. Alors moi, j'ai envie de te poser la question ce matin, à quelle échelle tu es en train de grimper ? À quoi tu grimpes pour essayer de sanctifier ta vie chrétienne ? Par quoi espères-tu, en te donnant du mal, en persévérant, te sortir de ta vie chrétienne finalement que tu ne trouves pas géniale et dans laquelle tu es en train de te débattre ? Et finalement, par quel moyen tu espères recoller les morceaux que tu as cassés ? Par quel moyen tu vas réparer ? Quelle est ta stratégie pour trouver les solutions à tes problèmes ? Tu fais quoi quand tu es coincé, que ça ne va pas ? Quelle stratégie tu mets en place ? Quels moyens ? Comment faire pour avoir la bénédiction et l'intervention de Dieu dans ta vie ? Explique. En fait, finalement, on est à l'opposé de ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. On oublie que c'est Dieu qui, le premier, a donné une échelle aux hommes. Et vous savez laquelle ? L'échelle de la loi. Première échelle. Et la loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu ne te feras pas d'idole, patati, patata. Et au sommet de cette échelle, comme c'est dit dans le livre de Jacob, dans le passage de Jacob, il y a Dieu. C'était généreux de la part de Dieu de nous donner une échelle. Afin que les hommes puissent au moins rentrer en contact avec Dieu malgré le péché. Mais cette échelle, mes amis, elle a trois défauts. Comme nos échelles, par personnel, par d'ailleurs, hein, trois défauts. Le premier défaut, déjà, ce n'est pas certain que le sommet de l'échelle arrive exactement là où nous souhaiterions arriver. Ça, c'est le premier défaut. En fait, il n'est pas certain que le ciel soit ouvert pour nous. La réalité, c'est qu'en montant à l'échelle de la loi, on a tous tendance à monter deux barreaux et à redescendre aux trois. Tu vois ? Tu essayes, tu grimpes, puis paf, tu t'écroules, tu redescends. Aucune certitude. Ça peut durer longtemps, ce manège. Hein. Deuxième défaut. Le premier barreau est déjà un peu haut. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, déjà, rien que le premier, il est haut déjà. Il est haut. Aide-toi, le ciel t'aidera. Comme dit hein, le proverbe, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu ne fais pas ceci, si tu fais cela, alors tu vas t'approcher de Dieu, du second barreau. Les amis, j'ai remarqué que dans ma propre vie, je ne suis même pas capable de grimper à l'échelle que je me fabrique moi-même. Et j'ai remarqué aussi que les barreaux ne descendent pas lorsque je suis tombé trop bas. C'est bizarre, hein? Parce que le premier barreau, il est déjà trop haut pour moi. Je suis tellement tombé bas des fois que j'arrive même pas à attraper le premier barreau. Alors je fais comment? Je suis découragé. Anéanti. Parce que l'échelle de la loi ne me rejoint pas là où j'ai vraiment besoin d'elle. Troisième défaut. Alors moi, je ne suis pas très sportif. Ma femme, elle est un peu plus sportive que moi. Il faut grimper, vas-y. Allez, je te suis, chérie. On se crache dans les mains, on suit ma femme. Hein? On y va? Allez, c'est parti. Et un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre. Et puis on essaye de grimper. Alors... Faites un cours avec elle, vous allez voir. Moi, j'y vais pas d'ailleurs. C'est même pas la peine. Je ne tiens pas 10 minutes. Mais bon, crache-toi dans les mains, on y va. Mais les amis, quand on n'a pas assez de force pour s'accrocher, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? On dégringole, non? À une échelle. Tu commences à monter un et deux, puis tu n'as pas assez de force pour arriver en haut, ben... Hop, et tu tombes. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaye d'avoir plus de piété, plus de disposition et qu'on n'y arrive pas? On retombe. Toujours dans les mêmes travers, toujours dans les mêmes difficultés, toujours dans les mêmes combats. Trois faiblesses de l'échelle de la loi de Moïse, mais aussi trois faiblesses des échelles qu'on se fabrique nous-mêmes. Et nous sommes très imaginatifs. On a une gamme étendue d'échelles pour soi-disant recevoir plus de bénédictions, pour être plus proche de Dieu, c'est incroyable. Alors nous essayons de grimper, on n'y arrive pas, on fait du surplace, on continue, on grimpe. Moi j'ai envie que ce matin... Au travers de ce passage, que j'ai tourné d'une manière un peu particulière, qu'on puisse se poser des vraies questions. Est-ce que l'échelle à laquelle nous grimpons, vraie question, change quelque chose à l'amour que nous avons les uns pour les autres? Je ne parle pas d'une impression, d'un sentiment, d'aimer un peu plus Jésus, d'aimer plus mon frère, déjà notre amour pour le Seigneur. Je parle d'un vrai changement, hein, pas quelque chose de surface, hein, quelque chose de concret, de pratique en profondeur dans notre vie. Est-ce que l'échelle que nous donnons pour améliorer notre vie chrétienne change quelque chose à l'amour que nous avons pour les gens autour de nous? Nos frères, nos sœurs. Parce que réfléchissons bien, finalement, c'est ça le véritable enjeu de la vie chrétienne, non? Jésus l'a résumé dans Matthieu. Tu aimeras Dieu, ton cœur, ton âme, etc. Et puis, le second qui lui est semblable, commandement, tu aimeras ton prochain. Parce que finalement, si tu as trouvé une échelle qui t'amène à ça, ok. Et c'est un grave problème que nous avons. Parce que nous aimons les échelles et aucune, finalement, ne nous amène à aimer plus. À aimer sans condition, à aimer, à aimer, à aimer. On est souvent plein d'amertume et de rancœur. On manque de grâce et de compassion. Et moi, ça me pose vraiment un problème. Vous savez, c'est dans ce contexte que Jésus a dit à Nathanaël, tu verras de plus grandes choses encore que le simple fait que je sache que tu étais sous le figuier. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Parce que l'échelle, c'est lui. Jésus ne veut pas nous aider à grimper. Jésus nous présente une échelle à laquelle tu n'as pas besoin de grimper. Il te dit, je suis l'échelle. Je suis celui qui rapproche le ciel de vous. On n'est pas dans l'Ancien Testament où Dieu est en haut de l'échelle, non. Je rapproche le ciel de vous. Je viens là, à l'endroit le plus bas. C'est fantastique, non ? Ça vous donne pas de la joie, ça ? Et les bénédictions de Dieu sont emmenées là où tu es. À l'endroit même où tu te trouves, au plus bas. Même si vous ne le méritez pas, même si vous ne le réalisez pas, je suis celui qui amène la grâce en prise directe avec vous. Et vous savez, lorsqu'on fait l'exégèse du texte de Jean, il y a un détail qui précise que l'échelle dont il est question part du ciel et elle vient jusqu'en bas. Rien à voir avec l'histoire de Jacob. Nous, en tant qu'êtres humains, on a l'habitude de faire partir les échelles d'en bas vers le haut. Humainement parlant, on réfléchit échelle de cette manière-là, parce qu'on est avec la loi de la pesanteur, vous comprenez ? Donc une échelle qui descend, ouais. Enfin, on utilise une échelle comme les pompiers pour aller éteindre un feu, donc on monte, hein. On ne descend pas. C'est rare qu'on descende. Mais là, c'est différent. Christ est venu, il s'est abaissé jusqu'à nous pour nous rejoindre dans notre perdition, dans notre incapacité. Et ce n'est pas à nous de grimper vers lui, car c'est lui qui est descendu vers nous. Je te rejoins là où tu es. Le premier barreau de l'échelle à saisir, descendu au plus bas de ton péché. Christ, la croix. Il a pris ta place. La place de celui qui ne mérite rien et qui ne peut rien. Et nous pouvons toujours le rencontrer au pied de cette échelle. Christ a pris la croix, le péché du chrétien qui va de défaite en défaite. C'est extraordinaire ça quand même. De défaite en défaite, d'échec en échec. Il a pris ton péché. Il fait descendre l'échelle jusqu'au chrétien qui arrive pas, quoi. Est-ce que tu te rends compte que Jésus est totalement disponible pour toi, pour moi ? Et finalement, la force de l'échelle de Jésus, c'est qu'il est ressuscité le troisième jour, monté au ciel avec les péchés du monde, qu'il est assis à la droite du Père. Jésus, il est à la fois en bas avec nous et en haut avec le Père. Il est l'échelle. Et il se tient aujourd'hui devant toi et te dit, tu vois là-haut ? Tu vois, regarde en haut, c'est encore moi. C'est moi là-haut, mais je suis là aussi, avec toi. Tu n'as pas besoin d'essayer de grimper, je suis là, arrête. Prends simplement du temps avec moi sous le figuier. Il n'y a pas à grimper. Vous savez, c'est déconcertant la grâce de Dieu. C'est déconcertant. Ça ennuie. Il peut même y avoir des responsables d'église qui disent ne pas trop parler de la grâce parce qu'après les gens... ils feraient n'importe quoi. Et moi, je me dis s'ils font n'importe quoi, s'ils n'ont pas compris la grâce. Et dans le rêve de Jacob, et dans les paroles de Jésus, il n'est pas question de grimper, jamais. Ce sont les anges qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme, grâce au sang de Christ. Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Et franchement, parfois, je ne me rends pas compte combien je suis aimé. Combien il prend soin de moi, combien il intercède pour moi. Et les anges sont prêts là à intervenir. Je crois que nous avons parfois un problème. Nous n'allons pas au pied de Jésus. Nous ne sommes pas là où on devrait être. Et la grâce de Dieu ne peut pas transformer notre vie, nous venir en aide. Et nous voudrions que le ciel s'ouvre. Et nous voudrions voir Jésus élevé. Comme dit le chant. Nous voudrions être bénis. Bénis de quoi ? Je suis bien, tout va bien. Bénis. Mes amis, il y a un endroit où le ciel est ouvert en permanence, c'est au pied de la croix. Que désires-tu ? Que cherches-tu ? Maître. Rabbi. Où habites-tu ? Où demeures-tu ? Au pied de la croix. C'est là que tu me rencontres. Je vais prier. Seigneur, un grand merci. Un grand merci parce que, tel que je suis, je peux venir à toi. Un grand merci parce que tu nous accueilles. Un grand merci parce que nous pouvons être tranquilles, en paix, dans ta présence. Un grand merci parce que malgré nos échecs, malgré nos imperfections, malgré nos chutes, notre manque de force, tu nous aimes quand même, tu continues à nous aimer, tu continues à nous accueillir, tu continues à marcher avec nous. Quelle grâce! Seigneur, donne-nous une vision renouvelée de ta grâce, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Que ce soit ce qui alimente notre vie chrétienne, que ce soit ce qui différencie la religion de la foi. Que nous fassions la différence dans la grâce. Seigneur, nous sommes privilégiés. Et Seigneur, peut-être nous comprendrons cet apôtre Paul qui écrit aux Galates: comment avez-vous pu commencer d'une certaine manière pour terminer d'une autre? Vous avez commencé par la grâce et vous finissez par la loi. Qui vous a ensorcelé? Alors, Seigneur, que tu nous donnes une vision renouvelée de la grâce. Aide-nous à ne pas perdre de vue ta miséricorde, ton amour, ta fidélité, ta patience. Aide-nous à l'intégrer à nos vies. Et Seigneur, je te prie vraiment pour moi-même, aide-moi à prendre le temps, comme l'a fait Nathanaël, d'aller sous le figuier, de trouver un temps, du temps pour toi, pour me remettre en question, pour faire le point sur ma vie dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu ne comptes pas nos péchés. Tu nous aimes. Merci de nous interpeller dans notre relation que nous avons avec toi. Parce que c'est ça qui fera toute la différence. Dans notre vie personnelle, dans notre vie chrétienne et dans notre vie d'église. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.